Livre 17, chapitre 2. Conduite généreuse et reconnaissante de Mrs. Miller. Monsieur Allworthy et Mrs. Miller venaient à l'instant de s'asseoir pour déjeuner, lorsque Blifil, qui était sorti ce matin-là de très bonne heure, rentra et se mit à table avec eux. À peine fut-il assis qu'il commença en ces termes. « Grand Dieu, mon cher oncle, vous ne voudrez jamais croire ce qui est arrivé. » Je vous proteste que j'ai toutes les craintes du monde de vous le dire, de peur de vous affliger par le souvenir de bonté que vous avez eu autrefois pour un pareil scélérat. Expliquez-vous, mon enfant, lui dit son oncle. Je crains bien, en effet, d'avoir eu plus d'une fois dans ma vie des bontés pour qui en était indigne. Mais la charité n'adopte pas les vices de ceux qui en sont les objets. Oh, monsieur, reprit Blifil, ce n'est pas sans une impulsion secrète de la Providence que vous vous servez du mot d'adoption. Votre fils adoptif, monsieur, ce Jones, ce misérable que vous avez nourri dans votre sein, vient de prouver qu'il était un des plus grands scélérats qu'on ait vus sur la terre. Par tout ce qu'il y a de sacré, c'est faux, s'écria Mrs. Miller. Monsieur Jones n'est point un scélérat. C'est une des plus dignes créatures qui existent. Et si toute autre personne l'eût appelé scélérat, je lui aurais jeté toute cette eau bouillante au visage. M. Allworthy parut extrêmement étonné de cette conduite de Mrs. Miller. Mais elle ne lui donna pas le temps de parler, et se tournant vers lui, elle ajouta « J'espère que vous ne serez pas fâché contre moi. Je ne voudrais, monsieur, vous offenser pour rien au monde. Mais, je le confesse, je n'ai pu supporter de l'entendre appeler ainsi. » « Je dois avouer, madame, dit très gravement M. Allworthy, que je suis un peu surpris de vous entendre plaider avec tant de chaleur pour un méchant garnement que vous ne connaissez pas. « Aussi, je le connais, monsieur Allworthy, continua-t-elle. Je vous réponds que je le connais. Il faudrait que je fusse la plus ingrate de toutes les femmes si j'osais le nier. Il m'a sauvé, moi et ma petite famille. Nous avons tous raison de le bénir tant que nous vivrons. Et je prie le ciel de le bénir aussi et de changer le cœur de ses méchants ennemis. Car je sais et je vois à présent qu'il en a de cette espèce. » « Vous m'étonnez de plus en plus, madame, dit Allworthy. Il faut assurément que vous vouliez parler de quelque autre. Il est impossible que vous ayez aucune obligation de ce genre à l'homme dont parle mon neveu. »« Rien n'est plus sûr, répondit-elle. Je lui ai les plus grandes obligations et je lui dois la plus tendre reconnaissance. Il a été mon sauveur et le sauveur des miens. Croyez-moi, monsieur, il a été calomnié, grossièrement calomnié auprès de vous. Je sais qu'il l'a été. Autrement, vous, que je connais pour être la bonté et l'honneur en personne, après toutes les choses bonnes et tendres que je vous ai entendu dire de ce pauvre malheureux enfant, vous ne l'auriez pas, avec tant de mépris, appelé un méchant garnement. Oh, vous, qui vous êtes toujours montré mon meilleur ami, je vous proteste qu'il mérite de vous un nom plus tendre. Je voudrais que vous eussiez entendu tout ce que je lui ai ouï dire de bon, de tendre et de reconnaissant en parlant de vous. Il ne prononce jamais votre nom qu'avec une sorte d'adoration. Dans ce même appartement où nous sommes, je l'ai vu implorant à genoux pour vous toutes les bénédictions du ciel. Je n'aime pas cet enfant qui est là, à côté de moi, plus qu'il ne vous aime. Je vois maintenant, monsieur, dit Blifil, avec un de ces ricanements affreux qui servent de signe au diable pour reconnaître ses plus chers favoris, je vois que Mrs. Miller le connaît réellement. Vous ne tendrez pas sans doute à être persuadé qu'elle n'est pas la seule personne de votre connaissance à qui il aura parlé de vous. Quant à moi, je m'aperçois à quelques expressions qu'il s'est permises, qu'il ne m'a pas épargné, mais je le lui pardonne. Et que le ciel vous pardonne aussi, dit Mrs. Miller. Nous avons tous commis assez de fautes pour avoir besoin de son pardon. Sur ma parole, Mrs. Miller, dit Allworthy, je suis offensé de votre conduite envers mon neveu. Et persuadé que toutes les réflexions que vous faites sur lui ne peuvent vous avoir été suggérées que par ce très mauvais sujet. Je vous assure qu'elles ne serviront qu'à augmenter, s'il était possible, mon ressentiment contre lui, car je dois vous dire, Mrs. Miller, que le jeune homme ici présent devant vous a toujours été le défenseur le plus chaud du misérable ingrat dont vous épousez la cause. Et quand vous tenez ce fait de ma propre bouche, il servira, j'espère, à vous faire frémir d'un tel excès de bassesse et d'ingratitude. « Vous êtes trompé, monsieur, » répondit Mrs. Miller. quand ce devraient être les dernières paroles qui dussent sortir de mes lèvres, je dirai encore que vous êtes trompé, et je le répète encore une fois, que le ciel pardonne à ceux qui vous ont trompé. Je ne prétends pas dire que ce jeune homme ainsi calomnié soit sans défaut, mais ce sont tous les défauts de légèreté et de jeunesse, défauts dont il pourra se corriger, dont je suis sûr même qu'il se corrigera. Et quand le contraire arriverait, ils sont plus que balancés par l'un des cœurs les plus humains, les plus tendres, les plus honnêtes dont jamais homme fut doué. « En vérité, Mrs. Miller, dit M. Allworthy, si l'on m'avait dit cela de vous, je ne l'aurais pas cru. »« En vérité, monsieur, répondit-elle, vous croirez tout ce que je vous ai dit, je suis sûr que vous le croirez. Et quand vous aurez entendu l'histoire que je vous raconterai, car je vous raconterai tout, vous serez si loin d'être offensé que vous avouerez vous-même, je connais trop votre justice pour en douter, qu'il faudrait que j'eusse été la plus méprisable et la plus ingrate de toutes les créatures si j'avais fait un autre rôle que celui-ci. Fort bien, madame, dit Allworthy, je serais charmé de vous entendre justifier une conduite qui, je dois l'avouer, a en effet besoin d'excuses. Quant à présent, madame, voulez-vous bien laisser mon neveu finir son histoire sans l'interrompre? Il ne nous aurait sûrement pas préparé par un tel préambule à quelque chose de peu de conséquence. Peut-être même cette histoire servira-t-elle à vous faire revenir de votre erreur. » Mrs. Miller témoigna qu'elle y consentait, et M. Blifil reprit ainsi. « Je vous proteste, monsieur, que si vous jugez à propos de ne pas garder le ressentiment de la conduite malhonnête de Mrs. Miller, je n'aurai pas de peine à lui pardonner ce qui ne touche que moi. Je pense toutefois que votre bonté ne méritait pas de sa part un pareil procédé. Fort bien, mon enfant, dit Allworthy. Mais quelle est donc cette nouvelle faute qu'il a commise? Qu'a-t-il donc fait encore? Ce qu'il a fait, s'écria Blifil, malgré tout ce qu'a dit Mrs. Miller, je suis très fâché d'avoir à le raconter. Et vous ne l'auriez jamais appris de moi si ce n'eût été un fait impossible à cacher à tout le monde. En un mot, il a tué un homme. Je ne dirai pas assassiné, car peut-être la justice ne l'interprétera pas ainsi. Et pour l'amour de lui, je souhaite qu'il se tire d'affaire. » Allworthy parut stupéfait de douleur, fit une exclamation, puis, s'adressant à Mrs. Miller, « Eh bien, madame, s'écria-t-il, que dites-vous à présent ?»« Ce que je dis, monsieur, répondit-elle, je dis que rien dans ma vie ne m'a jamais plus affligé. Mais si le fait est vrai, je suis convaincu que c'est son adversaire, quel qu'il soit, qui a tort. Dieu sait qu'il y a dans cette ville une foule de scélérats qui ne s'occupent qu'à provoquer les jeunes gens. Il n'y a que la provocation la plus vive qui ait pu l'engager à se battre. Car de tous les locataires que j'ai jamais eus, je n'en ai pas connu un d'un caractère plus doux et plus modéré. Il était aimé par tous ceux qui habitaient la maison et par tous ceux qui logeaient dans le voisinage. » Tandis qu'elle discourait ainsi, un coup violent frappé à la porte interrompit leur conversation, et l'empêcha de continuer et de recevoir aucune réponse. Car, supposant que c'était une visite pour M. Allworthy, elle se retira précipitamment, emmenant avec elle sa petite fille, dont les yeux s'étaient tout gonflés de larmes, aux tristes nouvelles qu'elle venait d'entendre donner de Jones, qui avait l'habitude de l'appeler sa petite femme, et non seulement lui donnait beaucoup de joujoux, mais passait encore des heures entières à jouer avec elle. Quelques lecteurs aimeront peut-être ces petites circonstances, dans la relation desquelles nous suivons l'exemple de Plutarque, l'un des meilleurs historiens, nos confrères. Les autres, à qui elles pourront paraître triviales, nous les pardonnerons, au moins nous l'espérons, en faveur de ce que nous ne sommes jamais prolixes en de pareilles occasions. Chapitre 3. Visite de M. Weston et quelques observations concernant l'autorité paternelle. Il n'y avait pas longtemps que Mrs. Miller était sortie lorsque M. Weston entra, non sans s'être un peu querellé auparavant avec ses porteurs, car les marauds qui avaient pris leur charge aux colonnes d'Hercule et ne concevaient pas l'espérance que M. Weston fût jamais pour eux une bonne pratique, encouragés d'ailleurs par sa générosité, car il leur avait donné de lui-même sixpence, au-delà du prix de leur course, lui avaient très impertinemment demandé encore un shilling, ce qui avait tellement indigné M. Weston que non seulement il les avait chargés d'une foule d'imprécations à la porte, mais que sa colère durait encore en entrant dans l'appartement. Il commença par jurer que tous les habitants de Londres étaient comme tous les gens de cour, et ne pensaient à autre chose qu'à piller les gentilshommes de province. « Dieu me damne, ajouta-t-il, si je ne sors pas à pied par la pluie, plutôt que de rentrer dans une de leurs civières à bras. Ils m'ont plus secoué dans l'espace d'un mille que mon loup brun, il parlait d'un de ses chevaux, pendant une longue chasse aux renards. Quand sa colère contre eux fut un peu apaisée, elle se ranima de nouveau pour un autre sujet. « Voilà, dit-il, voilà une jolie affaire à présent. Les chiens ont fini par prendre le change, et quand nous nous imaginions chasser un renard, que le diable l'emporte, il se trouve que nous n'avons poursuivi qu'un blaireau. « Je vous en prie, mon cher voisin, dit Allworthy, laissez là vos métaphores et parlez un peu plus clairement. » « Eh bien donc, pour vous parler clairement, nous avons toujours craint jusqu'à ce moment un fils de pute, un bâtard de je ne sais qui, et maintenant un autre damné fils de pute d'un lord, peut-être bâtard aussi, que m'importe, je ne m'en soucie guère, car il n'aura jamais ma fille de mon consentement. Ils ont réduit la nation à la mendicité, mais ils ne m'y réduiront pas, moi. Mes terres ne passeront pas dans le pays d'Hanovre. Vous me surprenez beaucoup, mon bon ami. Ventre bleu, je suis surpris moi-même. Je suis allé hier soir voir ma sœur Weston, comme elle m'y avait invité elle-même, et j'y ai trouvé une chambre toute pleine de femmes. Il y avait Lady Bellaston, ma cousine, et Lady Betty, et Lady Catherine, et Lady je ne sais qui. Dieu me damne si jamais l'on me rattrape dans un tel chenil. Dieu me damne, j'aimerais mieux être couru par mes propres chiens, comme un certain Acton, il voulait probablement parler d'Actéon, qui, à ce que dit le livre d'histoire, fut changé en lièvre, et ses propres chiens le tuèrent et le mangèrent. Ventre bleu, nul mortel ne fut jamais couru de cette manière. Si je détournais d'un côté, l'une m'attrapait. Si je voulais m'arrêter ou reculer, l'autre tombait sur moi. « Oh, c'est certainement un des plus grands partis de toute l'Angleterre, » disait une cousine, et il essayait de la contrefaire. « C'est en vérité une offre très avantageuse, » s'écriait une autre cousine, « car il faut que vous sachiez qu'elles sont toutes mes cousines, quoique je n'en ai jamais vu la moitié. » « Sûrement, » disait cette grosse Lady Bellaston, « cousin, il faudrait que vous fussiez tout à fait hors de sens, » pour avoir seulement la pensée de refuser une pareille proposition. « Maintenant, je commence à comprendre, » dit Allworthy. « Quelqu'un a fait à Miss Weston des propositions que les dames de la famille approuvent, mais ce quelqu'un n'est pas de votre goût. »« De mon goût, » dit Weston, « comment diable pourrait-il en être ? Je vous dis que c'est un lord, et ce sont des gens avec lesquels vous savez que j'ai résolu de tout temps de n'avoir rien à démêler. » N'ai-je pas refusé d'accepter un terrain précieux en échange d'un petit morceau de terre que l'un d'eux avait fantaisie d'enclore dans un parc, seulement parce que je ne voulais pas avoir affaire à des lords, et celui-ci croit que je lui donnerai ma fille. D'ailleurs, ne suis-je pas engagé avec vous, et ai-je jamais rompu aucun marché quand j'avais donné ma parole ? Quant à cela, voisin, dit Allworthy, je vous dispense absolument de tous vos engagements. Nul contrat ne peut être obligatoire entre deux parties qui n'ont pas eu un plein pouvoir de le faire, et ne pourraient par la suite avoir celui de l'exécuter. « Bah !» répondit Weston, « quand je vous dis que j'ai le pouvoir de le faire et que je l'exécuterai. Venez avec moi sur le champ, au Doctor's Commons, j'obtiendrai une licence. De là, j'irai chez ma sœur, je lui enlèverai de force la petite mutine, et elle l'épousera. Où je l'enferme et la tiens au pain et à l'eau pour le reste de ses jours. Monsieur Weston, dit Allworthy, oserais-je vous prier d'écouter mon sentiment sur ce sujet? Vous écoutez? Ah, sans doute, de tout mon cœur. En ce cas, monsieur, je peux vous dire franchement, sans compliment pour vous ni pour la jeune personne, que quand ce mariage fut proposé, j'y consentis avec autant d'empressement que de joie. Tant vous m'inspiriez tous deux une véritable estime. Je regardais comme l'événement le plus désirable une alliance entre deux familles si proches voisines, et entre lesquelles il a toujours existé une correspondance mutuelle, et une aussi bonne intelligence. Et relativement à la jeune personne, non seulement le concours d'opinion de tous ceux qui la connaissaient, mais ma propre observation m'assurait qu'elle serait un trésor inestimable pour un bon mari. Je ne dirai rien de ses qualités personnelles qui sont certainement admirables. Son bon naturel, sa bienfaisance éclairée, sa modestie sont trop connues pour avoir besoin de panégyrique. Mais elle a une qualité que possédait au plus haut degré la meilleure des femmes qui est maintenant au premier rang des anges dans le ciel. Cette qualité, qui n'est pas brillante de sa nature, échappe plus communément à l'observation. On la remarque même en général si peu que je ne trouve pas de terme pour l'exprimer. Il me faut user d'une tournure négative en cette occasion. Je n'ai jamais entendu citer d'elle aucun mot piquant, ou ce qu'on appelle aucune saillie. Je n'ai jamais reconnu en elle aucune prétention à l'esprit, beaucoup moins encore à ce genre de mérite qui ne peut être le résultat que du grand savoir et de l'expérience, et dont l'affectation est aussi absurde dans une jeune femme que les imitations grimacières d'un singe. Point de sentence magistrale, point d'opinion tranchante, point de critique profonde. Toutes les fois que je l'ai vue en société, elle a été toute attention, elle n'y a montré que la modestie d'un écolier qui veut s'instruire, et non l'assurance d'un maître qui enseigne. Une fois, pour l'éprouver seulement, je lui ai demandé son opinion sur un point qui était en controverse entre M. Thwackum et M. Square. Elle répondit avec douceur, « Vous voudrez bien me pardonner, cher M. Allworthy, mais vous ne pouvez pas sérieusement sans doute me croire capable de décider une question sur laquelle deux personnes aussi éclairées sont d'un avis différent. » Thwackum et Square, qui tous deux également se croyaient sûrs d'une décision en leur faveur, appuyèrent ma demande. Elle répondit encore avec la même affabilité, « Il faut absolument que vous m'excusiez. Je craindrais de faire injure à l'un de vous deux en déclarant que je suis de son opinion. » En général, elle montrait toujours la plus haute déférence pour le jugement des hommes, qualité absolument essentielle à une femme qui veut rendre son mari heureux. J'ajouterai encore que comme elle est manifestement étrangère à toute espèce d'affectation, cette déférence est sans doute sincère. Ici, Blifil soupira douloureusement. Sur quoi Weston, dont les yeux s'étaient remplis de larmes, en entendant l'éloge de Sophie, la laissa couler en lui disant « N'aie donc pas le cœur si sensible, ne crains rien, tu l'auras. Dieu me donne, tu l'auras, quand elle serait 20 fois encore plus parfaite. » Souvenez-vous de votre promesse, monsieur, s'écria Allworthy. Vous ne deviez pas m'interrompre. Bien, mais il l'aura, répondit Weston. Je ne dirai plus rien. Maintenant, mon bon ami, continua Allworthy, si j'ai appuyé si longuement sur le mérite de cette jeune personne, c'est d'abord parce que je suis réellement amoureux de son caractère, et puis pour qu'on n'imaginât pas que j'ai eu principalement en vue sa fortune lorsque j'ai accepté avec tant d'empressement la proposition qui m'a été faite de l'unir à mon neveu. Car sous ce rapport, ce mariage est réellement avantageux pour lui. J'ai souhaité ardemment, j'en conviens, qu'une personne de son mérite entrât dans ma famille. Mais quoique je puisse souhaiter beaucoup de choses fort bonnes, je ne voudrais pas cependant les dérober, ni me rendre coupable de violence ou d'injustice pour m'en mettre en possession. Or, forcer une femme à se marier sans son consentement ou son approbation est un acte d'injustice et d'oppression tel que je voudrais que les lois de notre pays puissent les réprimer. Mais la conscience d'un honnête homme n'est jamais sans loi dans le pays le plus mal constitué. Il se fait à lui-même celle que la négligence des législateurs a oublié de rendre. Et c'est ici assurément le cas. Car n'est-il pas cruel, je dirais même impie, de forcer une femme à entrer malgré elle dans l'état du mariage, état dans lequel elle doit rendre compte de sa conduite à la plus haute et la plus terrible cour de judicature et en répondre au péril de son âme. S'acquitter comme on le doit des devoirs du mariage n'est pas une tâche aisée. Et imposerons-nous ce fardeau à une femme au moment même où nous la privons de tous les secours qui peuvent l'aider à la supporter? Lui déchirerons-nous le cœur lorsque nous lui prescrivons les devoirs à l'accomplissement desquels son cœur tout entier suffirait à peine. Je dois vous parler ici très franchement. Je pense que les païens qui se conduisent ainsi sont complices de toutes les fautes dont leurs enfants se rendent coupables par la suite, et doivent conséquemment, devant un juge équitable, s'attendre à partager leur punition. Mais quand ils pourraient l'éviter, grand Dieu, est-il un père qui puisse supporter la pensée d'avoir contribué à la damnation de son enfant? Pour ces raisons, mon excellent voisin, comme je vois que l'inclination de cette jeune personne est malheureusement contraire à mon neveu, je dois renoncer désormais à l'honneur que vous vouliez me faire, tout en vous assurant que j'en conserverai toujours le plus vif sentiment de reconnaissance. Fort bien, monsieur, dit Weston, écumant de colère. Vous ne pouvez pas dire que je ne vous ai pas écouté jusqu'au bout. J'espère maintenant que vous m'écouterez à votre tour, et si je ne réponds pas victorieusement à tout ce que vous avez dit, je consens à abandonner l'affaire. Premièrement donc, je vous prie de répondre à une question. Ne l'ai-je pas mise au monde? Répondez-moi à cela. On dit que celui-là est un père sage qui connaît bien son enfant. Et assurément, j'ai à cet égard les titres les plus incontestables, car je l'ai élevé. Vous m'accorderez, je crois, que je suis son père. Et si je le suis, ne dois-je pas gouverner mon propre enfant? Et si je dois la gouverner dans tout le reste? Sûrement je dois la gouverner dans ce qui l'intéresse le plus. Et que désirais-je, moi, en tout ceci? Désirais-je qu'elle fasse quelque chose pour moi? Qu'elle me donne quelque chose? Tout au contraire, je désire seulement qu'elle accepte aujourd'hui la moitié de mon bien et l'autre moitié après ma mort. Et pourquoi tout cela? N'est-ce pas pour la rendre heureuse? Il y a de quoi rendre fou d'entendre parler certaines gens. Si j'allais me marier, moi, alors elle aurait raison de crier et de pleurer. Mais au contraire, n'ai-je pas proposé d'engager tout mon bien de manière à ce que je ne puisse me marier quand même je le voudrais? Et qu'aucune femme sur la terre, si pauvre qu'elle fût, ne voulût de moi? Que diable d'enfer puis-je faire de plus? Et je contribuerai à sa damnation. Ventre bleu! Je consentirais plutôt à voir tout le monde damné qu'à lui voir mal au bout du petit doigt. En vérité, monsieur Allworthy, il faut que vous m'excusiez, mais je suis surpris de vous entendre parler ainsi. Et je dois vous dire, vous le prendrez comme vous voudrez, que je vous croyais plus de bon sens. Allworthy ne se vengea de cette réflexion que par un sourire. Et il n'aurait pas pu, quand même il eût fait tous ses efforts pour cela, mettre dans ce sourire le plus léger mélange de malice ou de mépris. Ces sourires, en pareille circonstance, étaient semblables à ceux que nous devons supposer aux anges, lorsqu'ils daignent laisser tomber leur regard sur les absurdités du genre humain. Blifil demanda alors la permission de parler. Quant à user d'aucune violence envers la jeune personne, j'atteste, dit-il, que je n'y consentirai jamais. Ma conscience ne me permettrait jamais d'user de violence envers aucun individu, et beaucoup moins envers une personne pour qui, quelque cruelle qu'elle soit à mon égard, je conserverai toujours l'affection la plus pure et la plus sincère. J'ai lu quelque part, cependant, que les femmes sont rarement capables de résister à la persévérance. Pourquoi ne puis-je donc pas espérer que je pourrai parvenir au moins par cette voie à gagner son cœur, dans lequel, par la suite, je ne trouverai peut-être plus de rival? Car s'il n'y avait que ce lord, M. Weston est assez bon pour me préférer à lui, et sûrement, monsieur, vous ne nierez pas qu'un père ait au moins une voix négative dans cette matière. J'ai de plus ouï dire que cette jeune personne a dit et déclaré plus d'une fois qu'elle regardait comme inexcusable les enfants qui se mariaient en opposition directe à la volonté de leurs parents. D'ailleurs, quoique les dames de la famille semblent soutenir les prétentions de Milord, je ne vois pas que la jeune personne soit portée à le favoriser le moins du monde. Hélas, je suis trop certain du contraire. Il m'est trop démontré que le plus vil des hommes est encore celui qui occupe la première place dans son cœur. « Oui, oui, n'en doutez pas !» s'écria Weston. Mais sûrement, dit Blifil, lorsqu'elle entendra parler de l'assassinat qu'il a commis, quand même la loi lui ferait grâce de la vie. « Comment? Que dites-vous ? » s'écria Weston. « Un assassinat ? A-t-il commis un assassinat ? Et y a-t-il quelque espérance de le voir pendu ? Tralala, la la, tralala. Ici, il se mit à chanter et à sauter autour de la chambre. Mon enfant, dit Allworthy, votre malheureuse passion m'afflige plus que je ne peux vous le dire. Je vous plains de tout mon cœur, et je ne négligerai aucun des moyens que l'honnêteté avoue pour obtenir le succès de vos vœux. Je n'en demande pas davantage, s'écria Blifil. Je suis convaincu que mon cher oncle a trop bonne opinion de moi pour croire que je désire qu'il en fasse davantage en ma faveur. Eh bien, dit M. Allworthy, je vous donne la permission de lui écrire, de la voir même, si elle y consent, mais j'insiste pour qu'on ne lui fasse aucune violence. Je ne veux point d'emprisonnement, ni que l'on tente rien de semblable. Bien, bien, dit Weston, on ne tentera rien de semblable. Nous essaierons encore quelque temps, quel effet auront les moyens doux. Et si ce vaurien peut être seulement pendu par-dessus le marché, tralala, je n'ai jamais reçu de meilleures nouvelles de ma vie. Je réponds à présent que tout ira à mon gré. Je vous en prie, cher Allworthy, venez dîner avec moi aux colonnes d'Hercule. J'ai commandé une épaule de mouton rôti, une côtelette de porc et un poulet avec une sauce aux œufs. Il n'y aura personne que nous, à moins que nous n'ayons le désir d'avoir l'hôte, car j'ai envoyé le curé Supple chercher ma tabatière à Basingstoke, où je l'ai laissée dans une auberge, et je ne voudrais pas la perdre pour tout l'or du monde, car c'est une vieille connaissance de plus de 20 ans. Je peux vous dire au surplus que l'hôte est le plus drôle de corps et qu'il vous divertira beaucoup. M. Allworthy céda à cette invitation, et bientôt après, M. Weston sortit en chantant et en sautant, dans l'espoir de voir incessamment la fin tragique du pauvre Jones. Quand il fut parti, M. Allworthy reprit avec beaucoup de gravité le sujet précédent. Il dit à son neveu qu'il désirait de tout son cœur qu'il fît ses efforts pour vaincre une passion, du succès de laquelle je ne peux, lui dit-il, vous flatter aucunement. C'est, je le sais, une erreur commune, que l'on peut vaincre ce genre d'aversion dans une femme par la persévérance. Quelquefois, peut-être, l'indifférence s'est laissée vaincre ainsi. Mais les triomphes que la persévérance d'un amant a coutume d'obtenir ne se remportent que sur le caprice, la prudence, l'affectation et souvent une excessive légèreté qui engage les femmes peu sensibles à satisfaire leur vanité en prolongeant le temps des petits soins, lors même qu'elles aiment déjà, et les déterminent enfin, si jamais elles se déterminent, à donner à leurs amants un misérable dédommagement de leur persévérance. Mais une répugnance prononcée, comme je crains bien que ne le soit celle-ci, acquérera plutôt de la force qu'elle ne sera vaincue par le temps. D'ailleurs, mon cher, j'ai une autre crainte. Il faut que vous me pardonniez. Je crains que cette passion que vous avez pour cette jeune et jolie personne n'ait trop sa beauté pour objet. Et dans ce cas, elle est indigne du nom d'amour, de cet amour qui est le seul fondement du bonheur conjugal. Admirer, aimer, désirer ardemment la possession d'une belle femme, sans avoir aucun égard à ses sentiments pour nous, est, je le crains bien, une chose trop naturelle. Mais je crois que l'amour ne naît que de l'amour. Au moins suis-je à peu près convaincu qu'aimer une personne dont nous sommes sûrs que nous sommes haïs n'est pas dans la nature humaine. Examinez donc votre cœur jusque dans ses replis les plus cachés, mon cher enfant, et si, après cet examen, vous avez le moindre soupçon que la chose puisse être ainsi, je suis sûr que votre vertu et votre religion vous engageront à déraciner de votre cœur une passion aussi vicieuse, et que votre raison vous mettra en état d'y réussir sans peine. Le lecteur peut facilement deviner la réponse de Blifil. Mais s'il y trouvait quelques difficultés, nous le prévenons que nous n'avons pas pour le moment le loisir de contenter sa curiosité, attendu que notre histoire marche trop rapidement vers des objets d'une plus grande importance, et que nous ne pouvons supporter plus longtemps d'être absents de Sophie.